France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La semaine dernière fut révélé par voie de presse un plan de paix établi pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ce projet, défendu par Donald Trump, négocié avec l'entourage diplomatique de Poutine, prévoit notamment que Kiev renonce à rejoindre l'OTAN, limite ses capacités militaires, accepte de céder des territoires occupés dans le Donbass. Mais ce plan est-il vraiment un plan Trump ou bien la liste des attentes et des suppliques russes a-t-il été rédigé par Moscou ou par Washington? Et quelle stratégie les Européens réunis hier à Genève peuvent-ils concevoir pour défendre leurs intérêts? Pour en discuter, deux invités ce soir. Isabelle Lasserre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro et l'autrice de l'ouvrage intitulé « Les fantômes de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain ». C'est aux éditions de l'Observatoire et cela a paru le 15 octobre dernier. Face à vous, Vera Grantseva, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, enseignante à Sciences Po Paris et l'autrice de l'ouvrage intitulé « Les Russes veulent-ils la guerre ? C'est au CERF », paru en 2023. Merci à vous deux d'être présentes ce soir dans Questions du soir.
L'Ukraine traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. La pression est aujourd'hui très forte. L'Ukraine pourrait se retrouver confrontée à un choix très difficile, soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire essentiel, soit accepter le plan américain, soit affronter un hiver extrêmement dur. Nous ne ferons pas de déclarations tapageuses. Nous travaillerons calmement avec les États-Unis et avec tous nos partenaires. Nous ne donnerons pas à l'ennemi de raison de dire que l'Ukraine ne veut pas la paix.
La voix de Volodymyr Zelensky, il s'exprimait vendredi dernier pour cause commencée, Isabelle Lasserre. Est-ce que vous estimez, comme le président ukrainien, que l'Ukraine est à la croisée des chemins ?
Oui, probablement, parce que alors elle peine un petit peu sur le terrain, sans perdre la guerre, hein, parce que le front, finalement, depuis 2 ans, n'a bougé que de quelques kilomètres. Mais c'est vrai que Volodymyr Zelensky est en ce moment affaibli politiquement, puisqu'il est affecté par un gros scandale de corruption qui a déjà eu la tête de la peau de deux de ses ministres et qui touche son plus proche collaborateur, Yermak. Mais au-delà de ça, c'est sans doute la première fois depuis la guerre que Volodymyr Zelensky doit affronter en même temps deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, qui travaillent main dans la main. Et c'est vrai que le choix auquel il est réduit, soit de perdre son allié américain qui lui fournit encore des renseignements et qui peut vraiment aller beaucoup plus loin dans les restrictions à l'aide, et le choix de capituler, parce que ce plan est en fait un plan de capitulation, est absolument terrible.
Est-ce que vous qualifiez la situation de Volodymyr Zelensky de la même façon, Vera Grantseva? On vient d'entendre cette expression, il doit affronter deux grandes puissances aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec cela?
Oui, effectivement, c'est le cas, et même l'ironie historique est que une de ces puissances est un ancien allié. Donc c'est un allié qui a mis le couteau dans son dos. Et effectivement, pour
parler des États-Unis, bien sûr.
Exactement, ouais, c'est les États-Unis, l'administration de Trump. Donc pendant des années, l'aide américaine était très importante. Aujourd'hui, elle est autour de 20% de toute l'aide que l'Ukraine reçoit. Donc on peut se dire que peut-être c'est pas si énorme, mais en même temps, elle fournit effectivement des éléments cruciaux comme les systèmes patriotes qui aident de défendre le ciel ukrainien. Et d'ailleurs, on voit que depuis plusieurs mois, le Kremlin intensifie ses frappes de missiles sur les villes ukrainiennes et il y a plusieurs victimes civiles. Et le deuxième, effectivement, comme disait Isabelle, c'est le renseignement. Le partage des renseignements est crucial pour être capable à se défendre et aussi viser les sites militaires sur le territoire russe.
Alors parlons de ce plan. Hein. Ce plan dit Donald Trump aujourd'hui, plan de 28 points. On y reviendra. Mais est-ce qu'il vous semble qu'il s'agit d'un plan américain, Isabelle Lasserre, ou bien d'un plan russe vendu dans du papier Kraft siglé d'un drapeau américain?
Alors, c'est un plan russo-américain, puisqu'il est, il a l'air de convenir aux deux présidents, à la fois Vladimir Poutine et à la fois Donald Trump, du moins quand il a été rendu public.
Mais qui a tenu la plume
mais
pour
sur, commencer Mais sur le fond, il me paraît assez évident que c'est un plan russe. Pourquoi? D'abord parce que le secrétaire d'État, Marco Rubio, l'a quasiment reconnu. C'est-à-dire qu'avant de revenir sur ses propos, il a dit que c'était une liste des souhaits russes. Et effectivement, c'est une liste de Noël pour Vladimir Poutine quand on liste les 28 points différents. Et ensuite, parce qu'il y a dans la formulation de certains points des expressions qui ne peuvent pas venir de la Maison-Blanche. Je pense notamment au point qui stipule que le gouvernement ukrainien doit être dénazifié, qu'il faut chasser tous les nazis de Kiev. Ça, c'est vraiment un langage typiquement poutinien. Même avec la meilleure volonté, ou la moins mauvaise, la pire volonté, on ne peut pas imaginer un responsable américain écrire ça. Et puis il y a des fautes de, on voit bien que les fautes de syntaxe, c'est un texte qui a visiblement été passé à l'intelligence artificielle, ce qui n'empêche qu'après les Américains ont sans doute mis un petit peu leurs pattes, puisque dans certains articles, par exemple celui qui concerne la reconstruction et tous les bénéfices qui doivent revenir aux États-Unis, là c'est visiblement les Américains qui ont rajouté un peu à l'arrache des choses qui les intéressent. Bon, à l'arrivée, c'est un plan russo-ukrainien, mais d'inspiration russe et qui sert quasiment à 100% les intérêts de Vladimir Poutine.
Mais ce qui frappe alors, au-delà même du cynisme, c'est l'amateurisme peut-être du camp américain. Utiliser l'intelligence artificielle, ne pas être capable même d'expurger du texte les éléments de langage poutinien. Comment est-ce que vous analysez cela, Vera Grantseva?
Ça vient peut-être naturellement de la personnalité du président américain actuel, qui lui-même en fait n'est pas un grand spécialiste ni dans l'histoire ni dans la géopolitique. Donc c'est
pardonnez-moi, mais il a quand même une administration, des conseillers qui l'entourent. C'est pas lui qui reprend, j'allais dire, avec son clavier et son ordinateur le texte qui a fuité dans la presse.
Mais cette fois-ci, à la différence avec le premier mandat entre 2016 et 2020, quand il s'est entouré par des vrais spécialistes, par des diplomates, par les personnes expérimentées, cette fois-ci il a décidé d'aller plus loin et en fait à s'entourer par ses amis plutôt comme Steve Fitkoff qui est son ancien ami et qui n'est pas un grand spécialiste sur la géopolitique même ni sur la région. On sait très bien que Steve Fitkoff ne connaissait pas même pas les régions de quelles il s'agissait dans ses négociations. Donc il connaît pas ni l'Ukraine ni le régime de Poutine ni la Russie actuelle. C'est pourquoi il se laisse facilement manipuler. Et juste pour rajouter à ce que disait Isabelle, effectivement dans ce texte on voit même les tournures linguistiques russes qui ont été laissées dans sa version initiale. The Guardian ont révélé ça, qu'il y a des formules qu'effectivement, moi, quand j'entends, on le voit dans tous les protocoles diplomatiques, toute la communication diplomatique russe. Par exemple, en anglais, c'était marqué « It is expected that ». C'est franchement très russe. Beaucoup de diplomates russes utilisent cette tournure. Donc voilà, on voit même au niveau linguistique à quel point c'est un plan russe qui était effectivement après complété par quelques idées un peu à droite, à gauche, plutôt financière, économique, par les Américains.
Et puis, il faut peut-être aussi, pour bien comprendre cet amateurisme, faire la distinction entre l'entourage proche, voire très très proche de Vladimir Poutine. Je pense en particulier à Steve Witkoff, que vous avez mentionné, à son gendre également, Jared Kushner.
De Donald Trump, vous voulez dire.
Donald Trump, absolument, pardonnez-moi. L'amateurisme de Donald Trump, à son entourage extrêmement proche, le distinguer de l'administration américaine. Là, les positions ne sont pas tout à fait convergentes, et le secrétaire d'État des États-Unis, d'ailleurs, a pris ses distances même sur le fond de ce plan.
Oui, alors c'est ce que j'allais ajouter, c'est-à-dire que là, on est dans une, on touche à l'une des failles de la méthode Trump, qui a complètement personnalisé sa manière d'essayer de résoudre les crises. C'est-à-dire que il envoie un envoyé spécial. Il a fait la même chose pour le Gaza et le Proche-Orient, et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est Steve Witkoff qui gère la question russo-ukrainienne. D'ailleurs, Vladimir Poutine fait pareil, puisque il a lui-même son envoyé spécial Kirill Dmitriev, et la plupart des choses se passent entre ces deux hommes. Ce qui explique aussi pourquoi, en fait, ce texte n'a pas été visiblement revu par les autres. De toute façon, sur le fond, Donald Trump se fiche complètement de l'intérêt des Ukrainiens. Il se fiche que ce plan soit juste, il se fiche même qu'il donne lieu à une paix durable. Ce qu'il veut, absolument maintenant, c'est que les armes se taisent. Aujourd'hui, il veut avoir une paix, même symbolique, dans son escarcelle, avoir son prix Nobel de la paix. Donc, il se fiche complètement du fond. Ça pose vraiment un problème, parce que c'est quand même la plus grande puissance mondiale. Et on a une manière de confectionner la politique étrangère et la politique de sécurité aujourd'hui aux États-Unis qui pose vraiment question. Alors heureusement qu'il y a eu une rébellion autour de l'entourage de Trump, dans les rangs républicains. Heureusement que Marco Rubio a fini par comprendre qu'il s'agissait d'un mauvais plan. Mais ce n'est pas sérieux, ça donne une impression d'amateurisme. On a l'impression d'un enfant caractériel et que les gens qui travaillent avec cet enfant caractériel, les Européens, Volodymyr Zelensky, etc., les spécialistes, ceux qui connaissent un petit peu plus la situation aux États-Unis, sont en train d'essayer de le canaliser sans parler trop fort pour ne pas l'énerver davantage, pour ne pas que la décision soit encore plus catastrophique. Enfin, on marche sur la tête, on est en 2025, c'est le président des États-Unis et c'est une aberration ce qui se passe, une aberration.
Côté russe, cette fois-ci, Vera Grantseva, est-ce que vous estimez que ce plan fuit au bon moment du point de vue des intérêts de Vladimir Poutine ?
Ça fuit un moment parfait pour le Kremlin, parce qu'il voit cette situation comme un moment de faiblesse de l'Ukraine au niveau du front. On sait que la ville de Pokrovsk souffre beaucoup maintenant et l'armée ukrainienne peine effectivement à le garder dans les territoires ukrainiens. Du point de vue politique, effectivement, il y a ce grand scandale de corruption en Ukraine qui affecte aussi Zelensky, même si il faut aussi se rappeler qu'il y avait déjà des scandales comme ça et que l'Ukraine, depuis des années, se bat contre ce problème. Donc c'est quelque chose qui inquiète la société ukrainienne, mais en même temps c'est pas pour cela qu'ils vont céder pour Poutine et être prêts à déstabiliser leur pays, parce qu'ils comprennent qu'au fond des choses, ce qu'ils cherchent Poutine, en fait il vise plusieurs objectifs. Au niveau militaire, il vise à démoraliser l'armée ukrainienne, parce que si on discute le plan de paix, à quoi ça sert d'aller mourir aujourd'hui pour défendre Pokrovsk et d'autres villes ukrainiennes dans la région de Donbass. Au point de vue politique, il cherche aussi à déstabiliser le pouvoir politique en Ukraine en disant que Zelensky est prêt aussi à peut-être trahir les intérêts ukrainiens. Donc il vise plusieurs objectifs et c'est effectivement un bon moment pour utiliser ce moment de crise en Ukraine.
Isabelle Lasserre, dans le fond, Volodymyr Zelensky est dans une impasse, notamment parce que sa situation de faiblesse est alimentée par Poutine. Il a choisi, Poutine, dans le fond, le bon moment pour avancer sur la voie diplomatique, en apparence du moins.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est visiblement Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, qui a délibérément fait fuiter le texte à Axios. Donc, effectivement, il appuie là-dessus à un moment où Volodymyr Zelensky n'a...
Axios qui a fait paraître un certain nombre de révélations ce week-end et ces derniers jours liées à, justement à l'élaboration de ce plan notamment.
Volodymyr Zelensky affronte sans doute l'une des plus graves crises politiques depuis le début de la guerre. Il faut quand même rappeler que la corruption est 10 fois plus importante en Russie. On n'en entend jamais parler parce qu'en Russie, il n'y a pas de société civile qui réclame des mesures anticorruption comme c'est le cas en Ukraine. Et il n'y a pas non plus d'institutions qui travaillent pour faire éclater les scandales de corruption. Donc c'est pour ça qu'on en entend parler en Ukraine. D'un certain côté, alors c'est terrible, mais d'un certain côté, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Parce que ça prouve que quand même, la société civile, ça fonctionne. C'est la différence entre une dictature et une démocratie. Mais c'est du pain béni pour Vladimir Poutine et aussi pour tous ses alliés dans le monde qui n'attendent qu'une chose, c'est de dire, vous voyez, on peut pas prendre l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est un pays corrompu, etc.
Alors sur le fond, intéressons-nous au plan et à son contenu exact. Commençons par ce premier point. Un accord global de non-agression sera conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Toutes les ambiguïtés laissées en suspens ces 30 dernières années seront considérées comme résolues. Fin de citation. Alors j'avoue que c'est expéditif à la lecture. Vous avez toutes les deux osé lever les yeux au ciel. Un accord global de non-agression, pour commencer, est-ce que c'est crédible ?
Déjà, oui, ces formulations, ça commence mal, effectivement, dans cet accord, même si soyons aussi assez prudents, parce que ce plan a déjà évolué. Juste en arrivant ici, j'ai vu que déjà, il était réduit à 19 points, et donc certaines formulations ont été déjà modifiées.
Sans doute, mais pardonnez-moi, ça pose tout de même la question, est-ce que la Russie est même capable de respecter un cessez-le-feu ?
C'est peu probable parce qu'on sait que Poutine a déjà signé plusieurs accords et il ne les a pas respectés. Et en plus, avec son obsession avec l'Ukraine et aussi avec la guerre qui est devenue un peu le cœur du régime, il aura besoin de continuer une politique agressive envers des ennemis extérieurs. Donc c'est peu probable. Mais imaginons que maintenant, il a aussi son économie aussi ne va pas bien. Et effectivement, il progresse sur le terrain, mais à quel prix et à quelle vitesse? Ça prend des années et des années pour... aboutir à ces objectifs. Donc peut-être on peut imaginer qu'aujourd'hui il peut être ouvert à une trêve. C'est pas la vraie paix, c'est pas les vraies négociations, c'est plutôt une trêve qu'il veut utiliser pour déstabiliser encore davantage l'Ukraine. Mais juste cette formulation que vous avez évoquée, donc c'est le pacte de non-agressivité entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Mais dans cette triade, il y a un seul pays qui est agressif, c'est la Russie. Dire que c'est aussi il faut stipuler non-agressivité de l'Europe et de l'Ukraine, mais c'est effectivement une aberration, c'est contre la réalité de l'histoire, ce qu'on a vécu depuis ces derniers 10 ans, en fait, parce que Poutine fait la guerre contre l'Ukraine depuis 2014. Donc voilà, il essaie d'incruster dans ce document beaucoup des choses qui sont, on peut dire, d'une façon maligne pour aussi diluer la responsabilité et pour trouver aussi la justification pour tout ce qu'il a fait contre l'Ukraine, contre l'Europe depuis 2014.
Isabelle Lasserre, entre les lignes, la Russie semble se dédouaner d'une quelconque responsabilité également.
Oui, mais sur le cessez-le-feu, la Russie n'a jamais respecté aucun cessez-le-feu. On se souvient du dernier, c'était les accords de Minsk qui ont capoté. Pourquoi ? Parce que, en fait, la Russie utilise les cessez-le-feu comme une manière de poursuivre la guerre à bas bruit, ou pour pouvoir réchauffer le conflit au moment où ça l'arrange. Donc le cessez-le-feu chez Vladimir Poutine, c'est une manière de prolonger la guerre. L'autre raison, parce que c'est dans cet article que ce point que vous citez, la Russie, je pense aujourd'hui, est absolument incapable de se porter garante de la sécurité de quiconque. Et les Ukrainiens sont vraiment ceux qui ont vécu dans leur chair les promesses trahies de la Russie, puisque après la fin de l'Union soviétique, quand l'Ukraine est devenue indépendante, en même temps d'ailleurs que la Biélorussie, le Kazakhstan, ces trois grands pays ont accepté de rendre leurs armes nucléaires à la Russie, c'était leur stock soviétique, en échange d'une protection. Et dans les pays protecteurs, il y avait les États-Unis, l'Angleterre, la France, puis la Chine. Il y avait aussi la Russie. C'était en 1996, c'était les mémorandums de Budapest, et on a bien vu en 2014, puis en 2022, que le pays qui était censé protéger l'Ukraine est celui qui a attaqué l'Ukraine. Donc on ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine. Il est jugé parti dans cette histoire. On peut pas. Il a son objectif. Il le redit à longueur de discours, et de faire tomber l'Ukraine, de faire revenir l'Ukraine dans le giron russe et d'installer à Kiev un pouvoir qui soit aux mains du Kremlin. Donc il ne va pas protéger une Ukraine indépendante, il nie la souveraineté de l'Ukraine.
Les points les plus polémiques, les plus inacceptables même, diront certains, sont liés aux concessions territoriales imposées à Kiev dans ce projet d'accord. Le plan stipule que la Crimée annexée par la Russie en 2014, on le rappelle, ainsi que Louhansk et Donetsk seront reconnus comme russes de facto, y compris par les États-Unis. Kherson et Zaporijja seront gelés le long de la ligne de contact, ce qui signifiera une reconnaissance de facto de la ligne de contact, fin de citation. Là aussi, sur ces concessions territoriales, comment est-ce que vous analysez les choses, Vera Gantseva?
Le côté ukrainien a déjà déclaré que c'était le point qui était inacceptable pour eux. Donc je crois que à Genève, c'était un des points de plus fort désaccord entre les délégations ukrainiennes et américaines. Pourquoi c'est inacceptable pour les Ukrainiens? Pour
Genève, pardonnez-moi, vous mentionnez la rencontre qui a eu lieu hier, notamment entre Canadiens, Américains et Européens.
Oui, c'est ça. Pourquoi c'est important pour eux? Déjà parce que on peut pas légitimiser les agressions comme Poutine a mené contre l'Ukraine en leur donnant finalement ce qu'ils visaient. Donc ça donne en fait un précédent qui peut après être utilisé partout dans le monde où on justifie les actes de l'agresseur et on dit qu'à la fin, si attendre un peu, si faire la pression, si continuer à bombarder, tu peux avoir finalement ce que tu as voulu. Donc ça peut déstabiliser le système des relations internationales en général, mais surtout pour les Ukrainiens, c'est inacceptable parce que déjà la quand même un tiers de Donbass, parce qu'il s'agit de Donbass, de toute la région de Donetsk, n'est pas occupée par la Russie. Donc les Ukrainiens doivent juste céder gratuitement les territoires à Poutine, qui même il n'a pas pu conquérir d'une façon militaire. Donc il s'agit des choses qui sont inacceptables pour les Ukrainiens par définition, parce qu'il s'agit de leur territoire internationalement reconnu par l'ONU, et c'est pas les États-Unis qui peuvent décider qu'est-ce qui est reconnu au niveau de droit international, qu'est-ce qui n'est pas reconnu. Donc c'est quelque chose aussi que Trump il mentionne comme une option dans ses accords, mais au niveau de droit international et des relations internationales, c'est quelque chose qui va pas donner grand-chose finalement, parce que c'est pas les États-Unis qui décident ces questions-là.
C'est le coup le plus virulent, Isabelle Lasserre, porté à la souveraineté ukrainienne à ce stade?
Oui, parce que en droit international, on ne change pas les frontières par la force. Alors je sais bien que le droit international a été réduit par Vladimir Poutine et ses acolytes, et aussi par Donald Trump à peau de chagrin, mais les Européens, heureusement, ils sont toujours attachés. Les Ukrainiens ne sont pas naïfs. Ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas assez forts pour récupérer, dans les 6 mois qui viennent, les territoires qui ont été occupés par la Russie et la Crimée annexée. Ils sont bien conscients que ces territoires occupés vont devoir être gelés. Mais il y a une différence entre les geler pendant un certain temps, en attendant par exemple que Vladimir Poutine quitte le pouvoir, et les accorder à la Russie et que cette tractation soit reconnue par les États-Unis. Ça, c'est absolument inacceptable pour les Européens, c'est inacceptable pour les Ukrainiens. Enfin, on demande à l'Ukraine, on demande à un pays qui n'a pas perdu la guerre militairement, puisque l'Ukraine n'a pas encore perdu la guerre, et à un pays qui a été agressé par son voisin, de capituler et de donner plus de 20% de son territoire au pays qu'il a agressé. C'est quand même insensé.
Je voudrais qu'on revienne sur la deuxième partie du point que vous n'avez pas commenté l'une et l'autre. Kherson et Zaporijja seront gelés le long de la ligne de contact, ce qui signifiera une reconnaissance de facto le long de la ligne de contact. Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie, Vera Grantseva?
Bon, ça signifie plusieurs choses, et c'est ici qu'on voit que soit c'était pas bien discuté entre les Américains et les Russes, soit les Russes ont fait exprès de présenter ça comme une concession, parce que on sait que en fait la région de Kherson et de Zaporijja, donc une de ces 4 régions que Poutine essaie de conquérir, sont annexées en leur intégralité territoriale dans la constitution russe. Donc selon pour Poutine, pour ses élites, pour la Russie en général, ce sont ses territoires et il ne peut pas les céder. Parce que c'est déjà inscrit dans la Constitution. Donc, il faut changer la Constitution. Ce qui est, bon, possible en Russie de Poutine, on est bien d'accord, mais ça va être un peu plus compliqué pour lui, parce qu'il faut perdre les territoires qu'il ne possède pas en réalité, mais qu'il imagine posséder et qu'il a présenté comme ça à sa société, à ses élites. Donc, pour l'instant, ça peut nous dire qu'ils ont essayé de présenter le front gelé sur cette ligne entre les Ukrainiens et les Russes comme une concession peut-être, donc possible, pour montrer leur volonté aussi qu'ils sont prêts à céder, mais en réalité c'est pas une concession. Ces territoires, même leur partie n'appartiennent pas à la Russie, ils ont été agressés militairement et conquis en brisant le loi internationale. Donc voilà, à mon avis c'est soit une malcompréhension entre les deux côtés, russes et américains, soit c'était un jeu assez délibéré par Poutine pour présenter quelque chose chose comme une petite concession et la volonté de négocier avec les Américains.
Que dit le texte, Isabelle Lasserre, sur les garanties de sécurité cette fois-ci? Alors, garantie de sécurité, et dans le même temps, l'Ukraine n'aurait pas le droit d'adhérer à l'OTAN, elle n'aurait pas le droit de recevoir sur son territoire des troupes militaires européennes. Alors, qu'est-ce que sont les garanties de sécurité fiables concrètement qu'évoque le texte?
C'est aussi un des problèmes, un autre des problèmes majeurs du texte, c'est-à-dire que s'il y a la paix demain, si les Russes et les Ukrainiens se mettent d'accord sur une paix, je ne sais pas, si Zelensky dit « bon, ben, vous prenez la Crimée », je ne sais pas, enfin, je caricature exprès. La question suivante pour l'Ukraine, ce sera la question des garanties de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une sortie de crise avec une Ukraine qui n'aurait pas récupéré pour l'instant les territoires qui sont occupés, mais qui, en échange, rejoindrait le camp occidental et serait protégée par ce camp occidental. Donc l'Ukraine gagnerait la liberté et la démocratie. Mais pour ça, des garanties de sécurité, il y a plusieurs choses. C'est d'abord l'armée ukrainienne, qui est la première des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Or, cette armée est coupée en deux dans le plan russo-Trump. C'est la deuxième chose, une entrée dans l'OTAN pour pouvoir bénéficier de l'article 5, si dans quelques années il est toujours valable, parce qu'avec Donald Trump, on n'en est pas sûr. Or, Donald Trump l'a exclu, comme d'ailleurs Biden avait exclu une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN.
Et la troisième chose,
ce sont les troupes européennes. Et ça aussi, c'est exclu, Vladimir Poutine n'en veut absolument pas. Donc que reste-t-il comme garantie de sécurité à l'Ukraine? Pas grand-chose, en tout cas pas suffisamment pour que l'Ukraine puisse se protéger d'une future attaque russe qui, dans ces conditions, je suis désolée, ne fera aucun doute.
Un mot très rapide sur le partage de renseignements. Les États-Unis ont expliqué que si l'Ukraine n'acceptait pas l'ultimatum, eh bien, les États-Unis refuseraient de continuer de partager du renseignement entre les deux pays. Quel impact concret, là aussi, ça aurait sur la guerre? Est-ce que ce renseignement américain est à ce point déterminant, Vera Grantseva?
Ils sont très importants pour l'armée ukrainienne et plusieurs spécialistes et même hauts dirigeants ukrainiens en parlent. Mais en même temps, l'Ukraine a déjà vécu un moment quand il y avait cette coupure du renseignement.
C'était qui a duré plusieurs jours.
Voilà, c'était ce printemps de 2025. Donc c'était dur, mais ça n'a pas cassé la volonté ukrainienne. En fait, en connaissant le peuple ukrainien, on peut dire que rien ne peut casser la volonté d'être libre et de continuer d'être les Ukrainiens. Donc, ça va porter plus de victimes. Et ce sang sera sur les mains des fonctionnaires américains. Mais ça va pas briser la volonté ukrainienne, ça va pas les arrêter de leur résistance.
Isabelle Lasserre.
Oui, mais quand même, ça a une implication sur les opérations militaires ukrainiennes, parce que l'épisode auquel on fait référence, c'est que c'est quand les Ukrainiens s'étaient emparés d'une poche au sud de la Russie. L'arrêt des renseignements américains pendant quelques jours avait permis aux Russes de reprendre cette poche. Et le problème, c'est que les Américains peuvent aller bien au-delà. Là, on parle des renseignements, mais Donald Trump a dit qu'il ne voulait plus vendre d'armes aux Ukrainiens, mais pour l'instant, il n'empêche pas les pays européens de fournir des armes américaines aux Ukrainiens à partir du moment où ces pays européens les achètent aux États-Unis. Donald Trump, demain, peut tout à fait mettre fin à ça en disant « je ne fournis plus d'armes américaines aux Ukrainiens ». C'est-à-dire même celles qui sont achetées par les Européens, eh ben vous ne les enverrez pas en Ukraine. Donc, vous voyez, en creux, Donald Trump peut encore ces décisions peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la défense de l'Ukraine.
Vous l'avez mentionné, l'une et l'autre, face à ce plan, les Européens se sont réunis hier à Genève.
It is important to keep firmly in mind.
Il est important de garder à l'esprit ce que nous essayons tous d'accomplir, à savoir une paix juste et durable. Mais aussi le principe selon lequel toutes les questions concernant l'Ukraine doivent être déterminées en fin de compte par l'Ukraine. Et c'est pourquoi nous discutons très régulièrement avec les Ukrainiens.
On sait que s'il n'y a pas les éléments de la dissuasion, les Russes reviendront et trahiront leurs promesses. Donc nous, nous voulons la paix. Je pense qu'elle doit commencer par un cessez-le-feu. Et ça aussi, c'est des choses qu'on peut essayer d'avoir à court terme.
Le rôle central joué par l'Union européenne dans la consolidation de la paix en Ukraine doit être pleinement reconnu. L'Ukraine doit avoir la liberté et le droit souverain de choisir son propre destin. Elle a choisi un destin européen. Cela commence par la reconstruction du pays, son intégration dans notre marché unique et notre base industrielle de défense, pour aboutir finalement à son adhésion à notre Union.
Les voix successives de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, le président de la République française Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Cette réunion qui s'est tenue hier à Genève vers à Grandseva et qui a permis de réunir Américains, Ukrainiens, des représentants de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union européenne notamment, a-t-elle servi à quelque chose ?
Oui, à mon avis, ça a servi à quand même présence de l'Europe dans ces négociations, parce qu'effectivement, on a vu que à ces négociations qui ont été tenues à huis clos, un peu dans le cercle très très restreint, d'être deux, trois personnes les plus proches à Trump, mais aussi quelques Ukrainiens. D'ailleurs, il y avait Oumirov, le conseiller pour la question nationale de président Zelensky, qui aussi participait partiellement dans ces négociations. Mais l'Europe était complètement exclue. On n'a pas demandé quel était l'avis des pays européens, quelle était aussi leur vision des choses. Donc cette rencontre a permis de rétablir la participation des Européens dans ces négociations. Bon, on peut aussi se dire que c'est peut-être un peu tard, que ça ne joue pas grand rôle, mais je trouve que ça joue un rôle parce que beaucoup des questions qui sont dans ce plan, elles touchent directement l'Europe. Par exemple, la question des actifs actifs gelés russes. Ils ne sont pas aux États-Unis. Ils sont, bon, aux États-Unis, il y en a aussi, mais la majorité sont à Bruxelles, en Europe. Et personne ne peut décider, à part de pays européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Ou l'autre chose, c'était aussi la question sur le groupe de 7. En fait, ce plan initial, il même prévoyait que la Russie va réintégrer le groupe de 8.
Le G7,
ouais. Donc, c'était aussi étonnant, parce qu'il y a effectivement la plupart là-bas, c'est les pays européens. Donc, je trouve qu'en soi, c'est du progrès par rapport à l'État qui était il y a quelques jours, quand l'Europe était complètement exclu. Mais après, effectivement, il faut que l'Europe arrive à imposer quand même sa vision et arrive à convaincre Trump que ce plan ne va pas donner la paix, il va juste aider Poutine soit à avoir plus en Ukraine, soit même à la vaincre.
C'est quand même ça le sujet véritable, Isabelle Lasserre, permettre aux Européens à un moment de faire valoir leurs intérêts et leur point de vue. Est-ce que cette réunion hier a permis de faire avancer cela ou bien cela a été simplement une réunion pour cocher la case de leur participation à ces discussions ?
Je crois que les Européens jouent les pompiers. Et ça fait la deuxième fois qu'ils jouent les pompiers dans une situation très grave. La première fois, c'était au mois de mars, juste après l'humiliation médiatique de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Les Européens avaient accompagné Volodymyr Zelensky quelques jours plus tard dans le bureau ovale. Et ils avaient réussi à retourner Trump et à le forcer à réévaluer sa relation avec Volodymyr Zelensky. Je suis pas sûre qu'ils aient réussi à aller aussi loin cette fois. Là, à nouveau, ils jouent les pompiers. Ils le font assez délicatement parce que leur objectif n'est pas de se brouiller avec Donald Trump pour toutes les raisons que nous avons évoquées avant, parce qu'il ne faut pas que Donald Trump arrête son aide à l'Ukraine. Maintenant, les leviers dont dispose l'Europe sont assez faibles et surtout, elle hésite toujours à les mettre en œuvre. Les avoirs russes dont on parle, ça fait longtemps qu'on aurait pu les utiliser pour acheter des armes à l'Ukraine.
Mais sur cette question, pardonnez-moi, les Européens sont encore largement divisés.
C'est exactement ce que je suis en train de dire.
Comme la Belgique.
Ça fait longtemps qu'on aurait dû utiliser cet argent, qu'on aurait dû utiliser ces avoirs pour armer l'Ukraine. Les pays européens sont divisés. Alors, il faut voir, c'est plus facile en France, parce que la France est un pays qui a la dissuasion nucléaire, donc a une certaine autonomie, une certaine indépendance dans ses réflexions sur les questions de défense. Mais un pays comme l'Allemagne ou comme la Pologne, qui dépendait vraiment de l'aide américaine, la rupture avec Donald Trump, elle ne passe pas. Elle est extrêmement difficile à digérer. Donc, il y a ces espèces de pesanteurs, ces hésitations. Et puis, l'Europe n'est pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas du tout la même perception de la menace russe selon qu'on se situe à l'est dans les pays baltes qui sont directement menacés par la Russie ou en Italie et en Espagne où là on a plutôt peur de la menace qui vient du sud. Donc on avance très lentement, très doucement. Et finalement, il n'y a pas encore de véritable volonté pour passer la vitesse supérieure et pour pouvoir permettre à l'Ukraine de renverser complètement la vapeur. Alors on va voir jusqu'où va aller l'action des Européens qui essayent de proposer un contre-plan. On va voir.
Et dans le même temps, on a l'impression, par ailleurs, que ces Européens ne veulent pas adopter la même méthode que les États-Unis et les Russes. Les Européens cherchent d'abord à fixer un cessez-le-feu qui doit permettre d'entamer des négociations, notamment de fond sur ces fameuses concessions territoriales, alors que les Russes disent non, un cessez-le-feu est équivalent à la paix. Alors comment résoudre, cela, Vera Grantseva?
Ce n'est pas facile à résoudre parce que pour moi, Poutine utilise ces négociations pour améliorer et renforcer ses positions sur le terrain. Donc pour lui, c'est plutôt la couverture pour aider son armée sur le terrain.
Tandis Vous voulez dire qu'il profite de ces séquences pour avancer sur le théâtre de la guerre?
Voilà, ouais, c'est pourquoi il veut pas cesser le feu, parce que ça va arrêter son plan. Il veut démoraliser l'armée ukrainienne par ces négociations. Il veut aussi gagner du temps. Et on voit que depuis quand même janvier avec Trump, il a gagné beaucoup de temps pour avancer, même s'il n'a pas fait grand chose non plus. Donc Pakrovsk n'est pas pris vraiment dans le sens plein, mais il n'est pas loin quand même de ce bilan, malheureusement. Donc Poutine utilise ces négociations et il arrive à manipuler la Maison Blanche, l'admission de Trump pour jouer sur son jeu, tandis que les Européens sont bien conscients que tout d'abord il s'agit de leur propre sécurité. Les États-Unis sont loin et c'est très peu de chances qu'ils seront attaqués, tandis qu'il y a les pays européens, comme les pays baltes, effectivement, qui sont très très proches à la Russie et qui sont dans les viseurs du Kremlin depuis déjà plusieurs années. Donc les Européens veulent tout d'abord cesser le feu, ce qui est la vraie démonstration de la volonté de la paix, pour arrêter de tuer les gens sur le champ de bataille, mais aussi les civils que le Kremlin tue tout le jour avec les missiles. Mais on voit que cette volonté, elle n'est pas présente dans le comportement de Poutine, et il plutôt utilise son influence sur la mission de Trump et ses négociations pour avancer sur le front et pour essayer de gagner maximum dans cette guerre contre l'Ukraine.
Isabelle Lasser, quel regard portez-vous sur cette méthode européenne?
Eh bien, la méthode européenne, elle est avec ses moyens, mais là, on parle des relations, de la manière dont les Européens essayent d'influencer Donald Trump. Mais la vraie question à la fin, c'est Vladimir Poutine. C'est-à-dire que même si les Européens réussissent à convaincre Donald Trump qu'il faut amender vraiment profondément ce plan, à la fin, qui va décider? La balle sera dans le camp de Vladimir Poutine. Or, Vladimir Poutine, qui a dû être très surpris de recevoir ce cadeau de Noël par Donald Trump, à chaque fois qu'on lui donne quelque chose, il fait monter les enchères. Il avait même des réticences vis-à-vis du plan initial de Donald Trump, parce qu'il n'avait pas aimé ce que les Américains avaient rajouté dans le Trump. Le plan européen pour les Russes, il est absolument impossible à accepter. Donc, on en arrive toujours au même point. C'est-à-dire que, probablement, les Russes vont refuser ce nouveau plan de paix, même s'il est complètement amendé.
Pour tirer le fil de ce que vous dites, Isabelle Lasser, s'en remettre à Vladimir Poutine, parce que c'est ça aussi la réalité du rapport de force, c'est la source de votre pessimisme aujourd'hui?
Oui, parce que c'est la source de mon pessimisme, parce que je pense que les Européens se sont réveillés tellement tard qu'aujourd'hui, certains d'entre eux sont tentés d'accepter une paix pas terrible pour les Ukrainiens, parce qu'ils ne peuvent pas résister à la pression des deux présidents en même temps, et que si Donald Trump demain lâche l'Ukraine, ce qu'il est quand même probablement en train de faire, les Européens ne sont pas capables ou n'ont pas les moyens ou n'ont pas la volonté de prendre le relais des Américains. Donc je trouve qu'on a perdu tellement de temps, on est à la quatrième hiver de guerre. Si on avait fourni aux Ukrainiens au tout début de la guerre toutes les armes qu'on leur a livrées au compte-gouttes pendant 4 ans, en appuyant sur le frein, en se disant « Oh là là, ça va énerver Vladimir Poutine, oh là là, on va encore avoir des menaces nucléaires », eh ben l'issue de la guerre aurait pu être différente. Et c'est ça que je trouve absolument terrible, et c'est ça qui fait penser malheureusement à 1938 et à Munich, le moment où l'Angleterre et la France avaient cru qu'en donnant un bout de la Tchécoslovaquie, les Sudètes, à Hitler, on allait calmer les appétits de l'ogre et qu'on allait éviter la guerre. Et il s'est passé exactement le contraire. Et si on fait ça, si on se laisse aller à cette facilité aujourd'hui, il se reproduira exactement la même chose. Vladimir Poutine sera encouragé à reproduire un autre conflit ailleurs, dans les pays baltes, en Moldavie, etc. Et donc on sera entraîné peut-être dans ce conflit.
Et Vera Grantseva a acquiescé tout au long de l'expression de votre pessimisme. Merci encore à toutes les deux. Isabelle Lasserre, journaliste, rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro. Vera Grantseva, politiste, enseignante à Sciences Po Paris. Merci de vos analyses sur l'actualité de cette guerre qui sévit en Ukraine.